Poursuite de mon enquête en terre de catéchèse. En 1978, à 11 ans, je devais recevoir le sacrement de confirmation par l'évêque du diocèse. Afin de m'y préparer, je poursuivais sans enthousiasme excessif mon parcours catéchétique. Ce n'est pas la foi qui me posait désormais question à cette époque, mais celle de la méthode catéchétique et de l'ambiance de l'aumônerie. En effet, j'avais recherché assidûment à comprendre la structure de la foi catholique, notamment par mon écoute attentive des lectures de la messe, les vieux catéchismes trouvés dans les greniers, et les vies et pensées de saints empruntées à la bibliothèque municipale. Suite à un déménagement, ladite bibliothèque fut expurgée plus tard de dizaines de livres du même genre, pourtant remarquablement écrits et illustrés. Sans doute voués à un auto-da-fé, chaque culture a ses hérésies. Je plaisante un peu. La bibliothécaire gênée m'avait laissé entendre, en fait, que personne ne les empruntait. Au même âge, le Nouveau Testament complet m'était tombé dans les mains. Aussitôt, je l'avais lu intégralement avec avidité. Soupesant chaque terme, confrontant les témoignages des évangélistes dans ma tête, je poursuivais mon enquête dans le secret de mon cœur, sans me fier à quiconque. Saint Thomas More, 1478-1535, avait affirmé à juste titre « Je n'entends pas cheviller mon âme au dos de quelque homme que ce soit, fût-ce le meilleur que je connaisse aujourd'hui vivant, car je ne sais où il pourrait l'emporter. » N'oublions pas non plus que mon père était fonctionnaire de police. L'esprit critique, le refus d'une crédulité naïve et la méfiance envers l'être humain, capable de tous les délires et de toutes les infamies, m'avait été, pour ainsi dire, transmis génétiquement. L'unité de l'ensemble des livres du Nouveau Testament, au-delà de l'approche de chaque auteur, la cohérence du message, me semblait évidente sur l'essentiel. Mais tout cela me semblait d'une beauté si fascinante et si étrange, remplie d'éléments difficilement vérifiables, bien que résonnant au plus profond. Paradoxalement, ce sont les vies des saints les plus proches de nous historiquement, leurs vertus réelles et les témoignages irréfragables de miracles qui les accompagnaient, qui m'ont aidé à croire à ce récit vieux de 2000 ans. Saint François de Sales affirmait à juste titre que l'Évangile est comparable à une musique notée, tandis que la vie des saints est une musique chantée. Vacciné dès mes premières années contre les abus de pouvoir des adultes, je n'admettais aucun de ces arguments d'autorité en cours dans les différentes cultures ou époques du genre « Tu dois me croire ou je te fais couper la tête. J'ai raison parce que je suis plus âgé ou plus diplômé que toi. J'ai raison parce que Dieu ou le roi ou la République en ont décidé ainsi. » En matière rationnelle, ce sont en effet les raisons de ceux qui ont tort. Certes, dans l'éducation d'un enfant, il est nécessaire d'user parfois d'autorité car il n'est pas en mesure de comprendre toutes nos raisons à telle étape de son développement. Pour un adulte, si Dieu dispose toujours de toute autorité, comme l'omniscient devant les pensoras des pâquerettes que nous sommes, les créatures humaines ne devraient-elles pas, pour leur part, favoriser l'échange rationnel et le dialogue? Je me sentais seul dans ma quête, mais résolu à la mener jusqu'au bout. Seule la vérité m'importait, me disais-je intérieurement, dussé-je pour cela remettre en question le monde entier ou me remettre moi-même en question, ce qui est le plus malaisé. En accordant à la foi chrétienne le bénéfice du doute, j'avais prié sincèrement tous les jours de mon propre chef le « Je vous salue Marie » et le « Notre Père », seule prière apprise au catéchisme. Chaque dimanche, la liturgie où je me rendais seul m'avait formé à l'intelligence de la foi par ses oraisons si nourrissantes et ses lectures, et j'avais finalement reçu l'Eucharistie comme pain pour ma route et vrai corps du Christ. Je me suis posé alors sur la christologie, sans le savoir, toutes les questions qu'ont eu à résoudre les premiers conciles œcuméniques. Je brassais dans ma tête les paroles apparemment contradictoires de Jésus sur sa nature et son lien avec le Père, et personne, surtout pas au catéchisme, ne pouvait m'éclairer. Je voyais suffisamment à quel point l'ambiance était frondeuse, l'enseignement nivelé par le bas, sans faire encore perdre la face à l'adulte bénévole et susciter l'hilarité générale en lui posant des cols de haut niveau. En effet, dans la salle de l'aumônerie, retentissait presque chaque fois au milieu d'un brouhaha empêchant toute intériorité et toute réflexion des « on s'en fout, c'est pas noté, d'ailleurs mes parents n'y croient pas. C'est même pas vrai tout ça. Moi d'abord, j'ai pas envie de venir au catéchisme, c'est mes parents qui m'obligent. À quoi ça sert ?» La première fois que je m'étais retrouvé dans un tel contexte, j'hallucinais. En effet, à l'époque, les incivilités, quel terme pudibond, omniprésentes aujourd'hui, n'avaient pas gagné tous les établissements scolaires, et il était encore impensable de parler avec irrespect à un enseignant ou à un parent. Ce n'est qu'au catéchisme que j'avais à supporter une telle ambiance qui me donnait envie de planter tout le monde là. Je me retenais, même à l'époque où j'hésitais à croire que l'Évangile rapportait fidèlement les paroles et la vie de Jésus, d'interpeller les excités en leur disant « Eh bien sortez, oust, on ne vous retient pas, vous nous fatiguez, et tant pis pour vous, moi ce sujet m'intéresse, et je veux profiter de l'occasion pour écouter ce qu'on a à me dire et me faire une opinion. » Je n'ai jamais compris pourquoi les catéchistes ne répondaient pas aux questions, somme toute légitimes et normales, que sous-entendaient les provocations des enfants. Pourquoi elles ne leur expliquaient pas avec leurs tripes, si on me passe l'expression, en quoi la foi en Jésus pouvait changer la vie et l'éternité même si l'on part d'un point de vue chrétien. De plus, la méthode me déroutait. Je la confrontais malgré moi, vers mes 11 ans, à celle utilisée à l'époque de mes parents, basée alors sur la précision des formules très rationnelles, la rigueur de la progression très structurée, l'alternance des questions et réponses, ainsi que l'effort de mémorisation. Perplexe, dérouté au possible, je n'arrivais pas à faire le lien entre les deux. Stylo feutre, découpage, collage, dessin et coloriage. Voilà le souvenir, agréable sans doute pour l'artiste que j'étais, que je garde de cette époque. Certes, j'appréciais que l'on sollicite notre créativité et que l'on essaye à partir de notre expérience d'enfant, école, jeu, famille, pour nous mener plus loin. Mais justement, j'avais trop souvent l'impression d'un décollage qui ne s'effectuait pas et d'une absence de certitude de foi et de finalité claire. Le but était-il donc de rester le nez collé sur nos dessins, avec l'autosatisfaction d'avoir passé un moment sympa avec des bons copains? Dans un souci de ne pas faire répéter des phrases non comprises, la mémoire n'était par exemple jamais sollicitée. Comment dans ce cas former l'intelligence de façon durable en lui donnant des repères. Du patrimoine théologique et spirituel de l'Église, il semblait que nous faisions table rase, le considérant comme une vieillerie démodée qui n'avait plus rien à nous apprendre. Le Très-Haut semblait ne pas avoir d'existence propre et changer à chaque génération. Il est vrai que nous étions en pleine crise post-conciliaire et post-68arde. Les évêques qui avaient eu l'inconscience ou l'héroïsme d'accepter leur charge ramaient comme ils pouvaient au milieu de prêtres troublés en crise d'identité et de communautés qui perdaient leur force vive. Le printemps de l'Église, annoncé par le Concile Vatican II, ressemblait plutôt à ce moment à une bourrasque qui fauchait tout sans crier gare. Certains, qui se définissaient pourtant comme chrétiens, se réjouissaient que l'intempérie, emportant les biens accumulés par les siècles, débarrasse l'Église de tout triomphalisme et resserre les liens de solidarité fraternelle entre les survivants. Mais il y avait bien des victimes innocentes dans la tempête. La crise et le désarroi qu'elle suscitait étaient mis en avant dans le prologue même introduisant au Nouveau Testament que l'on nous avait fait acheter. Pourtant, je ne pouvais comprendre que les progrès scientifiques quant à la connaissance et à la maîtrise du monde physique, je cite, le développement du confort et des techniques, le bouillonnement intellectuel et la crise des idées puissent être des motifs valables pour changer la religion de fond en comble. Dieu aurait-il cessé de révéler ses mystères aux tout-petits et de parler au cœur profond de l'homme depuis la bombe atomique, la voiture et la pilule anticonceptionnelle? N'était-ce pas plutôt l'homme qui avait engraissé, sclérosé son cœur, comme le disaient les prophètes, en tombant dans l'orgueil, la démesure et la dissipation? Les journaux, surtout en France, étaient considérés comme la voix du Saint-Esprit et les interprètes autorisés du Concile. auquel faisaient d'autant plus tapageusement allusion ceux qui ne pouvaient en citer trois lignes. La formule magique, la bracadabra permettant tous les délires, était l'expression « l'esprit du concile ». Devant elle, toute intelligence se prosternait, muette, et toute velléité de résistance cessait. Pour ma part, le contenu de la catéchèse que j'ai connue, réduite à sa plus simple expression, anorexique et en survie artificielle, pouvait se résumer ainsi. Un vieux couple juif, Abraham et Sarah, ont eu un enfant à un âge où c'était normalement impossible. Dieu, mot jamais expliqué, a fait alliance avec Abraham en lui promettant une descendance incalculable. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en effet, personne n'a jamais jugé bon de nous expliquer, même sommairement, ce que l'on peut dire de cet être que l'on appelle Dieu, quels sont ses attributs ou sa nature de pur esprit, et personne n'avait fait la moindre allusion devant nous à son acte créateur, à cause d'un complexe probable devant les thèses matérialistes d'un courant évolutionniste. Qui est Dieu? Le Père de Jésus. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Voilà le dialogue kafkaïen et gêné qu'on aurait pu entendre si l'on avait interrogé les enfants sur cette question. Je n'exagère nullement. L'histoire de Moïse était un peu plus mise en valeur à cause peut-être de son aspect social théologie de la libération. Mais on n'insistait pas trop sur les terribles plaies d'Égypte considérées comme des légendes. Le décalogue fut juste lu, sans commentaire, rien n'étant à retenir par cœur. C'est embêtant quand on est censé le pratiquer jusqu'à son lit de mort. Mais peut-être n'étions-nous plus censés le mettre en pratique ? Ou seulement dans la mesure où la non-observance d'un commandement divin était sanctionnée par la loi civile française ? Cela faisait subir une sérieuse cure de minceur au décalogue, reconnaissons-le au moins. Pourtant, le Seigneur Jésus lui-même ordonne « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 17. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 14. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais accomplir. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 17. Pire encore, il veut nous donner la grâce de les observer avec plus d'exigence intérieure et de perfection si nous désirons le suivre jusqu'en son royaume. Encore faudrait-il les connaître pour dégrossir notre esprit. La notion d'amour qui supplante les commandements donnés à Moïse peut être travestie, c'est le cas de la dire, dans notre société déboussolée. Je ne citerai que l'exemple des conjoints qui pratiquent d'un commun accord l'adultère en pensant ainsi renforcer le lien conjugal. Idée qui ne serait jamais venue à l'esprit, je gage, des Romains les plus décadents. Ne parlons pas des commandements de l'Église. Nous en ignorions jusqu'à l'existence. L'Église disposait-elle encore d'une autorité? Mai 1968, du haut de son autorité toute-puissante et recréatrice, nous avait appris une chose essentielle, n'est-ce pas? Il est interdit d'interdire. Le reste de l'Ancien Testament était survolé. Je comparais cela avec deux manuels de catéchisme sur l'histoire sainte étudiés par mes ancêtres paysans au XIXe siècle, à une époque où, nous dit-on, les catholiques ne connaissaient pas la Bible. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas le texte direct de l'Ancien Testament, mais une adaptation. Mais je constatais que les manuels remis entre leurs lourdes mains terreuses étaient incomparablement plus fournis que les nôtres. De plus, chaque histoire y était amenée avec des développements spirituels et patristiques bien choisis qui nous faisaient défaut. On prétendra peut-être qu'ils étaient inadaptés à eux et qu'ils ne les comprenaient pas. Qui peut en juger ? Certes, tous les cas de figure devaient exister, mais j'ai toujours été frappé de constater que Dieu comble les simples de sa sagesse quand ils ont le cœur droit, l'esprit de prière et qu'ils tombent sur de bons pédagogues. Dans la salle de catéchèse éclairée au néon, on concluait enfin chaque récit de miracle, même du Nouveau Testament, par « On ne sait pas trop comment les choses se sont passées en vrai, mais ce n'est pas grave. » Ah bon ? Nous voilà bien avancés, me disais-je en mon fort interne. On parle pour ne rien dire ? On ne sait rien ? Mieux vaudrait se taire. Pour moi, je trouvais cela grave, car la prétention de la religion de l'incarnation est justement que Dieu prenne chair dans la réalité historique concrète, et non seulement dans la cervelle d'intellectuels amateurs de systèmes philosophiques. On m'avait trop inculqué le réalisme dans la tradition familiale pour que je veuille bâtir ma vie sur des délires, sur des faits qui ne se soient pas réellement passés, sur des paroles qui n'aient pas été réellement prononcées, du genre « la communauté chrétienne, 100 ans après, a écrit cela pour signifier que, en fait... » Si Jésus-Christ n'avait pas existé, et si l'Évangile mentait à son sujet, qu'aurais-je à faire de la communauté chrétienne? Saint Paul pensait comme moi en écrivant « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Mais le Christ est ressuscité. Je dois reconnaître que dans cette catéchèse, la vie de Jésus était esquissée assez complètement. Pourtant, son enseignement se trouvait pratiquement réduit à une exhortation au partage et au non-racisme. Fait révélateur, ses propres paroles n'étaient quasiment jamais lues directement dans le texte, mais réinterprétées et racontées avec des censures et des retraductions révélatrices, qu'on le veuille ou non, de lacunes et de gênes. Des paraboles du Christ, seules deux surnageaient dans un océan de silence et encore mutilées ici ou là. « Dieu veut que l'on s'aime les uns les autres », nous répétait-on d'une façon plus moralisante que mystique. Assurément, Confucius pensait de même. L'interprétation la plus savoureuse dans cette optique est la pitoyable explication pseudo-rationnelle de la multiplication des pains qu'on nous fournissait en général de sources autorisées. Les gens ont sorti leur casse-croûte et l'ont partagée, si bien que tout le monde a pu manger à sa faim. Je veux bien que ce soit une application sociale intéressante, mais on comprend mal dans ce cas que la foule enthousiasmée ait considéré cela comme un signe divin et ait voulu que Jésus devienne son roi. Ceux qui alourdissaient les impôts dans la même optique sont rarement aussi populaires. Jésus lui-même d'ailleurs leur déclare « Vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain et que vous avez été rassasiés. » D'où tenait-il dans un lieu désert le pain capable de rassasier 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui ont un solide appétit, et dont les restes devaient remplir 12 corbeilles pleines? La Vierge Marie subissait aussi un traitement de choc. Dans l'édition du Nouveau Testament que l'on nous avait fait acheter, l'introduction à l'évangile de Luc précisait qu'elle avait cru voir un ange, parce que vous comprenez, dans sa culture, on croyait à cela. Amen. Mais nous qui sommes intelligents et évolués, toute cette histoire commençait bien, à écouter ce théologien. Sur quelle base appuyer notre foi alors? Sur le témoignage d'une fille inconnue à l'esprit perturbé? Que la Vierge Marie nous pardonne. Les anges, y compris nos anges gardiens, les démons et les exorcismes étaient relégués tacitement ou non dans une époque révolue. Comment ne pas y voir, avec le recul du temps, une cause évidente du fait que, depuis une génération, tant de jeunes non prévenus se soient jetés à bras ouverts dans l'occultisme et le satanisme si prospères actuellement. Au passage, qu'il me soit permis de remarquer que les passages des Actes des Apôtres parlant de ces questions ne sont étrangement jamais lus lors des messes, même celles de semaine. Quelques diablotins auraient-ils fermé les yeux et bouché les oreilles de ceux qui ont conçu l'actuelle répartition des lectures liturgiques? Le lectionnaire saute en effet allègrement à pieds joints sur les récits concernant Simon le magicien, qui a donné son nom à l'hérésie simoniaque, si largement pratiquée au cours des siècles, Actes chapitre 8, versets 9 à 25. Le magicien Élimas, frappé de cécité temporaire par saint Paul à titre de leçon salutaire pour sa perversité et d'illumination de l'assistance, Actes chapitre 13, versets 4 à 12. La servante à l'esprit divinateur qui rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, Actes chapitre 16, versets 16 à 24. Les exorcistes juifs qui avaient testé la puissance du nom de Jésus, Actes chapitre 19, versets 13 à 20. Et l'efficacité des reliques comme vecteur de guérison à travers les mouchoirs ayant touché le corps des saints apôtres de Jésus, Actes 19, verset 11. Toute chose qui, à mon avis, serait très salutaire pour le peuple de Dieu, confronté aux tentations des sciences occultes ou méconnaissant la puissance qu'il plaît à Dieu de déployer à travers son élu, ses saints et ses envoyés. J'oubliais. Le récit concernant la gravité mortelle du mensonge à l'Esprit Saint à travers le péché d'Ananie et Zaphira part également dans le néant. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Tout le monde voudrait bien sûr qu'il n'y ait pas de péché mortel. Et pourtant, le cœur profond de l'homme sait fort bien s'il est connecté ou pas avec sa source divine. Mortel ne fait pas allusion à la mort du corps, qui n'est qu'un signe et une réalité de toutes les façons inéluctables. Non. La seconde mort contre laquelle nous met en garde l'Apocalypse, celle dont Jésus lui-même enseigne par exemple « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous », est bien pire. La mort biologique, elle, ne constitue pas une révélation, mais le lot très prévisible de chacun. Curieux paradoxe, la bonne nouvelle de l'Évangile viendrait-elle nous annoncer que notre situation est encore pire que ce que nous imaginions? Cette idée semble en déranger plus d'un. La pensée horrible d'une âme en état de mort spirituelle, malgré peut-être des apparences de santé et de réussite sociale, d'une âme putréfiée, sans foi, sans espérance et sans amour, est de fait insupportable. Mais il nous faut descendre en nous-mêmes pour voir où nous nous situons. D'où la nécessité contemporaine du bruit omniprésent et des divertissements pour ne pas entendre les cris d'agonie des âmes. Oui, le réel est infiniment plus dramatique et plus profond que ce que nous imaginons. Mais là s'inscrit la bonne nouvelle. Nous avons un Sauveur, assoiffé de pardon, qui nous propose son salut. Libre à nous de le saisir, car il ne l'impose à personne. Chacun choisit de fait son camp et son éternité. L'idée que quelqu'un se retrouverait en enfer par mégarde, de façon accidentelle, comme on tombe dans une crevasse, me semble absolument opposée à l'idée d'un Dieu amour. Ne passe-t-il pas son temps, cet amoureux divin, à courir après ses créatures pour les ramener à lui? Mais revenons à la question des parcours catéchétiques. Tels qu'ils étaient conçus, je m'étonnais que le Saint-Esprit y semble moins utile pour appréhender correctement les Écritures que les longs discours dubitatifs des exégètes. Où était cet aspect de Dieu qui parle cœur à cœur avec sa créature? Où était l'esprit de prière? Assoiffé de cohérence, je ne comprenais absolument pas que des personnes qui remettaient en question des points aussi fondamentaux des Écritures puissent prétendre avoir la foi. Il n'est pas du tout nécessaire de recevoir les sacrements pour avoir le souci de la justice sociale et trouver l'enseignement de Jésus intéressant. Je pensais, avec ma logique d'enfant, que ces personnes ambiguës profitaient du système financièrement ou socialement. Des êtres aussi brumeux que peu clairs n'avaient probablement pas l'honnêteté et le courage d'aller jusqu'au bout de leur incroyance qui avait grandi peut-être au fil des années. Enfin, de la morale sexuelle, pas un mot dans ce parcours. À croire que les enfants, anges tout purs et asexués, n'avaient pas besoin de se former si jeunes au sens du corps, au mariage dans le plan divin ou à une vie consacrée éventuelle. Il serait bien assez temps, sans doute quand ils auraient été désintégrés au propre et au figuré par des expériences multiples. Sur ce point, je rejoins pleinement Don Guéranger qui écrivait en plein milieu du XIXe siècle que la pudibonderie de son époque ne contribuait en rien, à son avis, à maintenir les gens dans la vertu, que les siècles passés ne faisaient pas tant de mystères sur ces sujets. De l'interprétation spirituelle des Écritures, de la création du monde et de la chute originelle des premiers parents, des dons préternaturels de l'âme immortelle, pas un mot. Quant à la vie de prière, des 150 psaumes, un ou deux survivaient à l'omerta. Pourquoi cependant ne pas faire prier et mémoriser des psaumes aux enfants comme tant de nos ancêtres dans la foi? Cela ne pouvait qu'éduquer et enrichir l'expression de la prière, si pauvre parfois ou si guindée. Si on les trouve trop difficiles, eh bien, expliquons-les. Nous, les enfants, ignorions jusqu'au nom des sacrements et à leur nombre à plus forte raison, et ce jusqu'à la confirmation comprise. Vraisemblablement sous prétexte d'une théologie biblique, Rien ne nous était dit de clair et de ferme sur ces noms inconnus de nous, bannis du vocabulaire. Sainte Trinité, rédemption, incarnation, sacrifice de la croix, immortalité de l'âme, au sens que ce terme d'âme revêtait au Moyen Âge latin. La foi en la résurrection de la chair se limitait à expliquer avec le regard de biais que les défunts vivent dans notre cœur. Voilà qui leur fait une belle jambe, pensais-je. Alors, dans ce contexte, n'est-il pas compréhensible que les générations concernées par cette catéchèse ne voient pas que la licence sexuelle ou le divorce avec remariage puisse poser le moindre problème spirituel? Comment s'étonner ensuite, en branlant de la tête, si ce sont des générations de personnes illettrées en matière de culture chrétienne, dénuées de vie de prière ou de vie sacramentelle? Il y a eu réellement rupture de transmission à bien des titres, j'en suis convaincu, partout où était appliquée une pareille catéchèse. Et d'ailleurs, bien des penseurs, même incroyants, conviennent que le sens des œuvres d'art sacrées anciennes, qui encombrent nos musées et nos églises, est devenu obscur pour la plupart, pour ne pas parler des commentaires explicatifs, parfois délirants, et autres contresens grotesques que l'on peut trouver jusque dans des expositions officielles ou des ouvrages d'art. Et pourtant, en matière de manuels officiels, ceux que j'ai connus n'étaient pas les pires. Un certain catéchisme hollandais avait ouvert à l'époque une autoroute en la matière vers une désintégration de la foi catholique plus radicale encore. Bien évidemment, l'existence de l'enfer était autant passée sous silence qu'elle avait été mise au pinacle autrefois par des prédicateurs jansénistes terrorisants. Du salut des âmes, il n'était plus question. Que Jésus ait parlé une quarantaine de fois de ce mystère ne semblait pas poser problème. On y voyait comme un artifice de langage pour réveiller un auditoire assoupi. Ou plutôt, on détournait le regard ailleurs sans même examiner la question. Seul importait la construction d'un monde meilleur. Camarades, retroussons nos manches tous ensemble, nous allons changer la société. Et si c'est Jésus qui avait raison, et que c'était d'abord le cœur de l'homme qu'il fallait changer? Et s'il avait raison, et que ceci était impossible sans sa grâce à mendier dans la prière? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a-t-il osé affirmer. Et nous, imitant Simon-Pierre dans sa présomption, nous affirmions, le torse bombé, « Pas du tout, Seigneur, tu exagères toujours. Garde ta grâce pour les pauvres SDF qui en ont besoin. Tu vas voir comme je donnerai ma vie pour toi, comme je suis débordant de bonne volonté et incorruptible. Tu vas être impressionné. » Naïf et prime sautier, à l'image de certains chants sautillants et infantiles en usage dans tant de liturgies, il me semblait que nous n'avions pas préalablement fait le constat de l'état de décomposition avancée du monde. C'est de résurrection qu'il avait besoin, ce monde aimé du Père, et donc d'un sauveur divin, pas de soins esthétiques superficiels. Si le monde allait bien, ou que nous étions capables de nous sauver par nous-mêmes, à force de bonne volonté et de programmes audacieux, Jésus ne serait-il pas parfaitement inutile ? Il n'apporterait rien de décisif et de réellement nouveau. Que de pélagianisme ou de semi-pélagianisme rampant parmi les baptisés. Après Vatican II, dans l'optique d'une vision renouvelée et positive du monde, c'est-à-dire de la société humaine, n'avons-nous pas oublié cette phrase de saint Jean que personne, ni pape ni évêque, ne pourra retirer de l'Écriture sainte ? Mes enfants, dans le monde, tout est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la richesse. Et ne serions-nous pas passés à cette parole qui n'a rien de scripturaire? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est du moins la perception que j'en avais. En effet, n'avons-nous pas cessé de produire en grande partie, dans le corps fragile de l'Église, au moins en France, les anticorps qui l'ont aidé à résister aux maladies pendant des siècles? Les pathologies spirituelles et autres hérésies et vices se seraient-elles évanouies avec ce beau monde en progrès constant qu'une niaiserie crétine imaginait avec enthousiasme dans les années 70? Où est passée la correction fraternelle demandée par l'Évangile pour aider chacun à progresser vers plus de justesse? La charité chrétienne consiste-t-elle désormais à approuver n'importe quoi, surtout quand c'est conforme aux idées intellectuelles et idéologiques du moment ou à la majorité démocratique? Où est l'éducation des intelligences et des cœurs? Sommes-nous fatalement bons et vertueux, même à l'état sauvage? Sommes-nous si lucides sur le mal moral quand il est de connivence avec nos intérêts et nos lâchetés? Ces questions, je ne me les posais pas ainsi à l'époque, bien sûr, mais je les pressentais. Je constatais déjà de plus qu'à force d'insister, en réaction contre un jansénisme d'une époque désormais bien révolue, étouffant carcan qui avait sévi çà et là, sur l'amour de Dieu, on transformait ce dernier en une sorte de papy gâteux qui bénissait allègrement les turpitudes de ses enfants et les assurait que rien n'avait de conséquence. Or, je ne lisais rien de tel dans la parole de Dieu qui nous responsabilise au contraire, plus incisif qu'aucun glaive à deux tranchants qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, elle qui peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Quant à la présence du Christ dans l'Eucharistie, elle semblait un pur symbole sur lequel on passait à toute vitesse. Cette attitude était sans doute censée faciliter grandement le rapprochement œcuménique avec les protestants. Cela allégeait aussi les célébrations de bien des usages, prévus pourtant par le missel, et censément obligatoires pour des enfants obéissants de la mère Église. Mais obéissance était un mot proscrit qui aurait donné des boutons, comme chez des adolescents en pleine crise. Ah, ces messes light, qui devenaient de simples repas fraternels, décontractés, bruyants et bavards. Où était le saint sacrifice, grave, enraciné et profond, dont vivaient tant de nos ancêtres dans la foi et qui leur permettait d'offrir leur vie au quotidien? N'avions-nous donc plus aucun drame existentiel à joindre au sacrifice rédempteur? De l'histoire de l'Église et du témoignage des saints qui m'avait tant bouleversé, pas un mot. Je comprenais bien dans ma petite tête d'enfant qu'il n'était plus à la mode de parler des saints canonisés et des mystiques visionnaires, ni des pères de l'Église, ni des martyrs d'ailleurs. Il faut croire que nos millions de frères chrétiens emprisonnés et torturés, en URSS par exemple, ne pouvaient être que des ennemis du peuple opposés au progrès. Plus exactement, c'est comme s'ils n'existaient pas pour les paroissiens de base. On ne leur en parlait jamais. Pur produit de la désinformation anticommuniste, sans doute. Quand, en lisant les actes des martyrs et des confesseurs de la foi des premiers siècles chrétiens, je constate combien la communauté chrétienne les considérait comme ses joyaux, parlait d'eux, les visitait, les soignait, leur apportait de la nourriture, baisait leurs chaînes avec vénération, priait et jeûnait pour eux, payait grassement leurs geôliers pour les visiter, améliorer leur sort ou ensevelir dignement leur corps, recueillait leurs restes comme des reliques plus précieuses que l'or, racontait annuellement leurs témoignages lors de la liturgie, je suis atterré. Le remarquable pasteur luthérien Richard Wurmbrand a parfaitement parlé de ce phénomène pour l'époque actuelle. Bref, je ne voyais pas le rapport entre la foi lumineuse qui m'était apparue dans la Bible et la vie des saints, et ce discours délavé, fluctuant, aux contours incertains et au contenu primaire. Je n'avais qu'un espoir, terminer au plus vite ce cycle de catéchèse qui ne répondait pas à mes besoins, et sortir de cette ambiance agitée où l'on ne s'entendait pas penser. Le prêt de la vie de Sainte Bernadette par la catéchiste blonde de mes souvenirs est dans ce contexte la chose qui m'a le plus profité spirituellement de façon durable, en dehors de ce que j'avais appris par moi-même ailleurs. Mais si je n'avais eu que la catéchèse telle que je l'ai connue, je me serais enfui très, très loin. Je mentirais en prétendant le contraire. Au vu de ce qui précède, cependant, je dois tirer mon chapeau aux dames catéchistes. En effet, leur tâche, mission bénévole de surcroît, me semblait le métier du monde le plus ingrat. Il est évident que ces personnes, étourdis par l'émeute permanente des jeunes esprits enfantins, aussi arrogants que perdus, qui leur étaient confiés, faisaient de leur mieux. Coincés de plus entre le marteau et l'enclume, dénués de formation ou arrêtés dans leur élan spirituel par l'insuffisance de certains programmes eux-mêmes, elles devaient se poser encore plus de questions que moi sur l'utilité de leur tâche. Comment ne pas trouver logique, dans cet état de fait, que la communion solennelle ou la profession de foi des enfants se soit transformée et se transforme trop souvent en comédie solennelle qui signe pour la plupart l'enterrement de toute pratique sacramentelle. Et qu'on n'en impute pas la faute unilatéralement aux parents non pratiquants. Les miens non plus n'étaient pas pratiquants. Mais croyait-on réellement que les enfants ont une conscience et une raison, qu'ils sont capables de choisir délibérément de suivre le Christ, si on les initie à la vie spirituelle et s'adresse à eux comme à des êtres intelligents capables de comprendre? Je suis persuadé, en effet, que les enfants saisissent dans ce domaine mille fois plus de choses que l'on imagine, surtout ceux qui ont déjà été confrontés par des épreuves aux grandes questions de l'existence. Le rôle des adultes n'est-il pas d'essayer de répondre à toutes leurs questions, qui sont légitimes, même posées de façon agressive ou indirecte, d'anticiper les questions qui surviendront tôt ou tard, en les préparant à leur vie d'adulte, chrétien en l'occurrence, de les faire mûrir et de les tirer vers le haut? Au sujet de ma communion solennelle en 1979, c'est presque un détail, après tout ce que je viens de raconter, que de rappeler ceci. Ce fut l'année où, dans ma paroisse, le port de l'aube et de la croix furent interdits aux enfants, certains prêtres y voyant une source d'inégalité. Je n'invente pas. Pour le coup, chacun arriva donc vêtu selon les moyens financiers des siens, qui allaient des vêtements ordinaires à ceux très chics que l'on porte pour les mariages. Pourtant, le symbole de l'aube ne correspond-il pas depuis 2000 ans à celui du baptisé qui a revêtu le Christ? L'année suivante, le port de l'aube et de la croix fut réhabilité soudain, suite aux protestations unanimes des parents. Heureusement que le sens commun des fidèles, même parfois des catholiques non pratiquants, nous sauve à l'occasion du bouillonnement de cerveau de certains clercs. Tout ceci n'est pas politiquement correct, j'en suis consciente, dans certains milieux feutrés où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, et où la charité en parole est conçue comme quelque chose qui ne dénonce jamais le mal, moyen idéal pour éviter tout conflit. Excès de miel qui fait vomir. Surtout, j'en ai assez supporté en silence depuis mon enfance et souffert de cela pour avoir le droit d'en parler. Oui, j'ai assez serré les dents depuis 40 ans, en attendant l'heure de Dieu. Si je me tais, les pierres crieront. Si dans ces jugements je pêche par orgueil, défaut d'objectivité ou erreur d'appréciation, je ne demande pas mieux qu'on me corrige de ma faute en me montrant mes torts. De quel poids on me libérerait? Mais ce ne sont pas les attitudes de fuite des questions, d'autoritarisme ou de culpabilisation gratuite qui me convaincront de mon erreur. Ceux qui ont tort prennent ce genre de posture, ne pouvant trouver mieux dans leur arsenal. Or, notre Créateur commun nous a donné à tous une intelligence et une conscience personnelle. Comment leur faire violence? Et surtout, comme l'écrivait l'admirable père Vincent Leb au sujet de la nécessaire ordination des premiers évêques chinois, il s'agit du salut de millions d'âmes.